Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Deuxième table ronde consacrée aux valeurs de la résistance, avec une première communication de Cécile Vaste, qui est docteur en histoire, enseignante, qui a beaucoup travaillé avec la Fondation de la Résistance, qui travaille aussi avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. Et elle va nous parler de l'identité de la résistance, qui est en fait le titre de sa thèse, tout au moins de l'ouvrage qu'elle en a tiré, publié aux éditions Payot. Cécile, donc 20 minutes.
Alors oui, de l'identité, surtout des valeurs en fait qui sont associées à l'identité de la résistance. Donc bonjour à tous, je remercie donc la Fondation de la Résistance et le Musée de la Résistance de Toulouse, Antoine Grande, de cette invitation. Et je vais essayer d'aborder, vous allez voir, je vais recouper un peu des choses qui ont été dites ce matin, notamment par Laurent. J'espère que ce ne sera pas trop redondant. D'abord, dans un premier temps, rappeler quelque chose, puisque je sais qu'il y a énormément d'enseignants dans la salle. Vous le savez sans doute que depuis 2008, et ça a été confirmé dans les programmes de 2016, la manière d'aborder l'histoire de la résistance est étroitement associée, et j'allais dire presque exclusivement associée, à la question des valeurs de la République. Donc Jean-Marie reviendra tout à l'heure sur la question des valeurs républicaines. Mais c'est vraiment une manière d'aborder cette question qui renvoie finalement, enfin qui pose la question de l'approche de la résistance, de ces valeurs qui, dans l'enseignement du moins, est essentiellement centrée sur une vision très politique, j'allais dire presque exclusivement politique, du combat clandestin. Ça n'est pas une critique de la vision politique, mais c'est tout de même très réduit, enfin en tout cas très limité à cela. Toujours dans l'enseignement, cette question des valeurs de la résistance a également un arrière-plan civique, une dimension civique très importante, qui rejoint d'ailleurs l'idée que développait François Bédarida, donc dans un article que vous connaissez sans doute sur le concept de la résistance, article de 1995, lors du colloque qui a eu lieu ici à Toulouse en 1993. Et dans un article, dans une communication dans laquelle François Bédarida tente une définition de la résistance, il dit la chose suivante, la résistance donc, soutient une mémoire didactique. Donc vous voyez bien le lien étroit entre cette dimension didactique et l'association de la résistance à ses valeurs. Alors la question, évidemment, est-ce que l'on peut systématiquement associer les valeurs de la résistance à celles de la République ? Je pense que Jean-Marie pourra y répondre tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que n'aborder la résistance que sous cet angle-là, c'est prendre le risque de simplifier le sens de l'événement très fortement et d'en resserrer très singulièrement la chronologie, essentiellement centrée sur la période 43-44 et évidemment après-guerre. Là, je parle de l'enseignement, mais je pense que, vous le savez, les commémorations de la résistance et de ses valeurs rejoignent complètement cette approche et suscitent évidemment des interrogations proches. Et je reprends d'ailleurs cette manière d'aborder la résistance. En fait, Alban Wistel s'en amusait déjà en 1955 dans un ouvrage qui s'appelle « Héritage spirituel de la résistance ». Ouvrage qui n'a jamais été republié, mais que je vous conseille vivement de lire, parce qu'il est absolument passionnant. Et il disait la chose suivante, lorsque les valeurs, déjà, en 1955, les valeurs de la résistance étaient convoquées dans les discours commémoratifs, il disait « ces valeurs qui n'évoquent rien d'autre que de belles formules de langage et d'écriture ». Donc il y avait déjà cette distance de ces résistants, et en particulier de cette vision de la manière donc d'user de la résistance. Alors, comme vous l'avez compris, tout cela renvoie évidemment à la question des usages de la résistance et des lectures que l'on peut faire de la résistance a posteriori. Et le sujet, en fait, quand on parle des valeurs de la résistance, on a l'impression que c'est une évidence de parler des valeurs de la résistance. C'est une formule, c'est devenu même une formule assez convenue. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est plutôt, alors je ne vais pas dire de déconstruire, je ne vais pas faire de la cancel culture, mais au moins de la résistance, mais au moins d'essayer d'historiciser, j'allais dire, de revenir un petit peu sur ce que ça signifie en abordant quelques points, donc en gros en 3-4 points. Alors, le premier point, pardon, je viens de l'aborder, c'est la question donc la nécessité de s'écarter, pour parler des valeurs entre guillemets de la résistance, des usages et des lectures d'aujourd'hui que l'on fait ces fameuses valeurs, qui sont une lecture d'aujourd'hui en fonction des questionnements d'aujourd'hui et de ce que l'on veut faire, dire ou apprendre ou former à travers l'exemple de la résistance. Donc ça, c'est la première chose. La question étant, est-ce que la résistance ne crée-t-elle pas elle-même ses propres valeurs aussi ? On y reviendra. Deuxième point qui me paraît un peu nécessaire, sur lequel je voudrais revenir, c'est que finalement, cette question des valeurs, et ça c'est un petit rappel, pendant longtemps, c'était un passage obligé de l'historiographie. Et je voudrais revenir un petit peu là-dessus, puisque, même de manière un peu conventionnelle, puisque si je reviens à la manière dont les historiens ont voulu définir la résistance, depuis Henri Michel jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'au colloque, les fameux colloques « La résistance et les Français des années 90 hein, », c'est presque un passage obligé. Vous regardez bien les différents ouvrages, et Laurent ne me contradira pas, mais systématiquement on s'interroge « Mais qu'est-ce que ça veut dire les valeurs de la résistance ?» Et je vous donne cet exemple. Donc Henri Michel le fait déjà. Pour lui, la résistance, en termes de valeurs, représente une lutte patriotique pour la libération du territoire. Donc le patriotisme est une valeur centrale, conjuguée à une lutte idéologique pour la dignité de l'homme. Donc ça, c'est vraiment la vision, la définition qu'en donne Henri Michel. François Bédarrida, beaucoup plus tard, donc dans ce colloque de Toulouse de 1993, propose de penser la résistance, je vous cite, hein, comme une action clandestine menée au nom de la liberté de la nation et de la dignité de la personne humaine, par des volontaires s'organisant pour lutter contre la domination et le plus souvent l'occupation de leur pays par un régime nazi ou fasciste ou satellite ou allié. C'est intéressant parce que la dimension patriotique s'efface légèrement dans la vision de François Bédarrida et c'est davantage la dimension humanitaire ou humaniste qui émerge en fait de sa définition. Et cette question des valeurs revient également dans les années 90 aussi, dans les travaux qui ont renouvelé l'historiographie de la résistance, puisque toujours dans ce colloque de Toulouse, qui était le premier des colloques La résistance et les Français, vous avez par exemple une communication de François Marcot sur les valeurs de la résistance. Alors évidemment, c'est une approche un peu différente. François Marcot, lui, insiste beaucoup sur le patriotisme comme creuset hein, de la résistance. Donc, il revient sur un petit peu cette idée de patriotisme. Et ses recherches, finalement, s'intéressent davantage à la question de l'anthropologie et de l'histoire culturelle. Vous avez, parcourant les différentes communications, cette question qui revient en filigrane. Donc, il y a l'article de François Marcot, mais Rodk Edward, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques semaines, hein, je le signale, Jean-Marc Guillon, ici présent, qui pourra me contredire ou confirmer ou infirmer, Christian Boujard également, abordent cette question dans leurs articles, mais en insistant davantage sur la question des filiations, des héritages culturels, du poids du passé, dans l'approche dans la question des valeurs de la résistance. Et en remettant en perspective, dans le contexte de l'occupation, de la présence des Allemands, de l'idéologie nazie, comme de la contestation du régime de Vichy et de son idéologie. Donc vous voyez que cette question des valeurs de la résistance, la définition, qu'est-ce que ça signifie, n'est pas neuve et on la retrouve déjà dans l'historiographie. Troisième point sur lequel je voudrais revenir plus généralement, c'est la nécessité finalement, et ça va rejoindre ce que disait tout à l'heure Laurent, la nécessité de distinguer dans la question des valeurs l'ordre des idées d'une part, de la morale, d'un côté, vraiment quelque chose de très particulier, de la question de la posture, des comportements et de la question des héritages. Donc il y a vraiment, dans ce qu'on appelle valeur, il y a quelque chose tout de même de bien plus complexe que cela, que le seul ordre des idées. Donc on pourrait évidemment s'interroger sur la question, à travers donc, les valeurs de la résistance, sur la question de la moralité, des idées politiques, d'une manière générale, des références politiques, des références idéologiques. C'est souvent ce qui a été d'ailleurs abordé ce matin aussi par Fabrice à travers les différentes tendances politiques des débuts de la résistance. Mais à travers la notion de valeur, je crois qu'aussi il faut s'interroger sur, j'allais dire plutôt, les valeurs résistantes, les valeurs issues de l'engagement, de la clandestinité, les manières d'être, les attitudes, les comportements qui renvoient à la question finalement de l'identité. Qu'est-ce qu'être résistant aussi ? Et là, on sort un petit peu de la question idéale, la question de l'idéologie, et on s'intéresse davantage à la manière d'être et aux valeurs générées directement par la résistance, et j'y reviendrai un petit peu après. Donc on a vraiment cette notion d'idée, cette notion de rapport au réel dans la clandestinité, d'une part, et puis enfin, cette question de l'attitude, et enfin, la question du système de valeurs généré par l'action, la vie clandestine, les habitudes, les règles que crée la clandestinité. Donc, qui forme, et Laurent l'a expliqué tout à l'heure, une société résistante à part entière. Donc vraiment, on a ces trois aspects dans ce qu'on peut appeler valeurs de la résistance. Quatrième point sur lequel, une quatrième dimension qui me paraît extrêmement importante, c'est la question évidemment des temporalités. Temporalité dans la clandestinité, mais aussi temporalité, la question du temps et de la manière dont on appréhende la résistance après la guerre, dans l'action et après-guerre. Ce qui renvoie évidemment à la question après-guerre des usages et des héritages. Et on ne met pas sur la résistance et sur les valeurs de la résistance la même chose que l'on pouvait y mettre dans la clandestinité. Donc là, il y a quand même une différence. Donc, pour prendre un exemple, si on prend l'après-guerre, il faut s'interroger finalement sur la manière dont les valeurs de la résistance sont utilisées, sont les usages de ces valeurs, à l'épreuve d'autres réalités, d'autres moments de l'après-guerre. Et je pense, alors on a évoqué la période du titisme, la période de l'après-guerre notamment, la guerre froide, la question de la guerre froide comme contexte de la guerre froide, mais évidemment, ces valeurs de la résistance, elles ont été aussi interrogées au moment, par exemple, des guerres coloniales, des conflits coloniaux, et en particulier de la guerre d'Algérie. Donc on est vraiment là dans deux aspects complètement différents. Dans des situations différentes de celles du temps de la clandestinité, que deviennent ces valeurs évoquées, invoquées, et qui seraient issues de la résistance. Et donc, c'est évidemment un autre aspect qu'il faut aborder. Alors, si je prends l'exemple de la guerre d'Algérie, il est évident que l'on a des lectures extrêmement variables des valeurs de la résistance. Et je voudrais citer Germaine Tillion, qui explique très bien en fait la situation et la difficulté à plaquer sur une réalité autre que celle de la clandestinité des valeurs qui seraient issues de la résistance. En 1956, vous connaissez donc la position de Germaine Tillion par rapport à la guerre d'Algérie. Germaine Tillion est dans une position qui est au départ favorable. Alors, je dirais pas favorable à l'Algérie française, mais en tout cas favorable à une solution qui soit une intégration finalement à la France. Et elle est envoyée donc en Algérie pour missionner, pour s'occuper notamment des centres sociaux. Et en 1956, elle publie dans la revue associative Voix et Visage, qui est la revue de l'association de l'ADIR, Association des déportés et internés de la résistance, un article qui s'appelle « L'Algérie en 1956 ». Et elle dit quelque chose qui, moi, me semble absolument encore... que l'on devrait écouter très souvent quand on essaie de plaquer comme cela des valeurs de la résistance sur une autre situation. Elle attire l'attention de ses lectrices sur la nécessaire distinction des situations, du contexte à faire, à opérer, pour éviter les anachronismes. Voilà ce qu'elle dit. « Il existe des devoirs simples, cruels mais simples », écrivait-elle. Donc, pour nous, il y a 15 ans. Le devoir s'est présenté sous cet aspect-là, c'est-à-dire un occupant et lutter contre un occupant et ses collaborateurs. Rien n'est moins simple, entre guillemets, ces guillemets sont d'elle, que l'épreuve d'aujourd'hui, et soyez sûr qu'elle n'est simple pour personne. Donc là, on voit bien dans cette manière d'interpeller finalement les lectrices de Voix et Visage qui sont très divisées sur la question de la guerre d'Algérie. On voit bien la nécessité de distinguer très clairement les situations pour ne pas plaquer sur une réalité autre des valeurs censées être l'héritage de la résistance. Donc on a vraiment cet aspect-là. Et puis, pour revenir à la période de la clandestinité, donc pour revenir un petit peu sur les périodes de la clandestinité, eh bien, comment se définissent finalement ces valeurs, cette identité à travers ces valeurs ? Elles s'écrivent, on en a parlé, elles s'écrivent dans alors un certain nombre d'écrits, mais on les trouve dans les tracts et les journaux clandestins ou les mémoires d'après-guerre. C'est un certain nombre de valeurs. Elles se retrouvent dans un certain nombre de témoignages, même si, évidemment, il faut tenir compte des phénomènes de reconstruction mémorielle. Alors, ces valeurs, en fait, elles sont particulières, elles sont propres. La résistance génère ses propres valeurs. Quelles sont-elles ? On retrouve très fortement, en particulier au tout début de la résistance, la valeur de la fidélité et de l'intégrité. La question, alors, fidélité et intégrité, c'est une manière d'être très très singulière des débuts de la résistance, et peut-être que Julien pourra le confirmer, c'est l'idée de présence de témoignage face à ce qui, face à l'inéluctable. L'inéluctable, c'est un terme qu'utilise Henri Freinet, cette volonté de ne pas céder, et comme le dit très bien Jean Cassou dans La mémoire courte, une obstination à être. Donc il y a vraiment cette question de la volonté d'être ce que l'on est, de résister dans le sens premier du terme, c'est-à-dire être, préserver une identité face à une idéologie destructrice, alors à la fois patriotique, mais aussi sur le plan idéologique avec le nazisme. Donc il y a vraiment cette notion de fidélité et d'intégrité qui est très forte. Cette notion de fidélité, de constance, de préservation de soi, de ce qui est, on la retrouve très, très fortement évoquée dans les tout premiers tracts clandestins. On la retrouve par exemple dans « Résister, c'est déjà garder son cœur et son cerveau du réseau, enfin, du premier résistance du Musée de l'Homme, hein, 15 décembre 1940. Donc « Résister, c'est déjà garder, c'est le mot important, son cœur et son cerveau. » Donc on a vraiment cette dimension d'intégrité. Et puis je donne un autre exemple, « Les conseils à l'occupé », donc de Jean Texier à l'été 1940, qui préconise aux Parisiens l'attitude, en fait, le comportement. Là, on est davantage dans un comportement. Suivant, en prévision des gaz, on t'a fait suer sous un groin de caoutchouc et pleurer dans des chambres d'épreuve. Tu souris maintenant de ces précautions. Tu es satisfait d'avoir sauvé tes poumons. Sauras-tu maintenant préserver ton cœur et ton cerveau ? Donc, exactement la même formule qui sera reprise plus tard. Donc cette idée de préservation, d'intégrité, de conserver ce qui est, elle est très forte, en particulier dans les débuts de la résistance. On a parfois tendance à oublier cette dimension-là de la résistance. Donc ça, c'est une valeur vraiment très, très importante. Et une autre valeur aussi vraiment caractéristique de la résistance, c'est la projection dans l'avenir. C'est... Je reprends l'idée très, très, très souvent développée par Pierre Laborie, hein, qui lui tenait vraiment à cœur cette notion de cette caractéristique en fait de la résistance qui est la projection dans l'avenir, l'idée du futur. Il parlait de l'idée du futur. Et la projection dans l'avenir, ça n'est pas que le refus de la fatalité, je crois que le refus de l'inéluctable, c'est aussi la confiance indéfectible dans l'avenir. Les quelques extraits que Laurent tout à l'heure a cités de Jacques Bingen en sont vraiment l'expression. Et puis, par ailleurs, si vous lisez les lettres de Fusillé, vous voyez quasiment systématiquement un espoir dans l'avenir. Et cette idée du futur est vraiment centrale dans et est une valeur de la résistance. Et c'est évidemment un autre futur que celui proposé par Vichy ou l'occupant. Je recite Alban Wistel, parce qu'il a beaucoup développé cette idée du futur. Le désastre de 40 ne semblait-il pas accomplir la prophétie ? Alors il apparaît bien que la résistance fut aussi un refus victorieux de tout déterminisme historique, un refus victorieux de toute fatalité d'anéantissement. Donc il y a vraiment cette volonté dans la projection du futur de refuser ce qui est écrit, en fait, de refuser la fatalité, de refuser le déterminisme. J'ai fini. Donc voilà pour cette notion, mais c'est extrêmement important. Alors évidemment, il en sera question cet après-midi, les projets d'avenir élaborés dans la clandestinité qui vont déboucher sur le Conseil national de la résistance en sont l'expression la plus évidente de cette question de l'idée du futur. Mais il y a aussi cette façon d'être, en fait, cette manière d'être qui est très forte. Je donne enfin dernière, je vais conclure là-dessus, hein, dernière valeur. Je vais citer aussi Jean-Pierre Vernant, qui dans son dernier ouvrage, donc la traversée des frontières, revient, et c'est très intéressant, il revient sur, à propos de l'engagement, il définit l'engagement résistant comme une certaine conception de la valeur. Qu'entend-on par la valeur ? Il le dit, c'est quelque chose qui dépasse, je crois que c'est un mot qu'il dit très souvent, le mot dépasse, en fait, qui dépasse le reste, qui vous dépasse, et qui donne une certaine justification et une signification à la réalité clandestine. Cette valeur qui vous dépasse domine le risque, domine le danger, l'angoisse, la perspective de l'arrestation et de la mort. Cette conception de la valeur, il la compare finalement aux postures et aux valeurs des héros de la mythologie grecque, et je le cite, « Dans le cours des événements, dans le quotidien du monde, quelque chose entre en jeu qui s'impose et vous dépasse. Et le sens de la vie ne peut être donné que dans la mesure où il y a des choses qui vous dépassent. » C'est une façon d'être aussi, cette valeur-là, qui est caractéristique de la résistance, qui certes crée de l'imaginaire et rejoint le mythe, puisque c'est un petit peu cette comparaison que propose Jean-Pierre Vernant, mais que les résistants éprouvaient réellement. Enfin, on l'a vu ce matin, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples que tu donnais. Et finalement, quand on parle de valeur de la résistance comme une sorte de mantra où on dit il faut transmettre les valeurs de la résistance, etc., au fond, quelle est la véritable fidélité à la résistance ? Peut-être justement cette idée d'une valeur, d'une certaine idée d'une valeur et d'un dépassement qui doit être incarné dans des comportements, donc dans une action. Je vous remercie.
Même audio, une mémoire sonore.
Je vais passer la parole à Julien Blanc, qui est enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un spécialiste des débuts de la résistance. Sa thèse portait notamment sur l'organisation du Musée de l'Homme, qui est apparu en région parisienne dès la fin de l'année 1940. Et il va nous faire aujourd'hui une petite passerelle entre Paris et Toulouse, puisque sa communication donc s'intitule « De Paris à Toulouse, antifascisme et engagement résistant ». Pareil, la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup, Julien.
Merci au musée départemental et à Antoine Grandet. Merci à Fabrice, à la Fondation de la Résistance et à toutes leurs équipes pour cette invitation. J'ai toujours évidemment beaucoup de joie à venir ici à Toulouse. Donc mon topo, ma communication porte effectivement à comme titre « De Paris à Toulouse, antifascisme et engagement résistant ». Alors, on présente souvent la débâcle de 1940 comme une sorte de table rase. Et effectivement, il y a beaucoup de vrai dans cette analyse. C'est incontestable, la séquence de l'été 40 et de ce qui suit l'été 40 est de ce point de vue-là d'une violence assez inouïe, puisqu'elle débouche, on peut le rappeler, sur la fin, rien de moins que la fin de la Troisième République, la naissance d'un nouveau régime, celui de Vichy, la disparition des anciennes organisations, qu'elles soient politiques ou syndicales, de multiples recompositions politiques. Donc effectivement, l'effondrement du pays en 1940 fait très largement voler en éclats les anciens repères, et en particulier les anciens repères partisans. Pour autant, au milieu de cette espèce de chamboule-tout de l'année 40, ont subsisté des formes de continuité, des héritages, et des logiques de filiation qui renvoient au passé sont repérables. Les engagements en fait, qui avaient structuré le champ politique français dans l'entre-deux-guerres sont bouleversés, mais ils n'ont pas totalement disparu parce que les acteurs, tout simplement, ne sont pas vierges, si l'on peut dire. Ils ont un passé, ils ont des parcours, ils ont des habitus. Les acteurs n'arrive jamais entièrement nu sur la scène du crime. Alors j'imagine que Jean-Marie Guillon, dans un instant, évoquera sans doute l'enracinement de l'idée républicaine, l'importance de l'attachement à Marianne dans l'émergence et la structuration de la résistance. Moi, je voudrais, en m'inscrivant, je pense, dans une veine un peu similaire, réfléchir et m'intéresser à l'antifascisme. En précisant d'emblée, et c'est une évidence, combien le basculement dans la désobéissance n'est jamais monocausal, n'est jamais unidimensionnel. Il n'est jamais non plus mécanique. Il résulte toujours d'un subtil feuilletage, subtil et complexe, d'une combinaison, évidemment, d'événements, d'éléments. Alors, qu'est-ce que j'entends par antifascisme ? J'entends l'antifascisme là d'une manière très, très large, comme une culture politique, une culture militante qui renvoie aux années 30, qui désigne le péril fasciste comme l'ennemi prioritaire et qui défend la stratégie d'un front d'action unitaire. Donc je m'intéresse à l'antifascisme non pas tant comme une doctrine officielle d'une organisation politique précise, mais davantage comme ce que la sociologue Marie-Claire Lavabre a appelé dans Le fil rouge, qui est un livre qu'elle a consacré à la mémoire communiste, ce qu'elle appelle une mémoire vive, c'est-à-dire une mémoire agissante chez les militants, puisqu'elle a constitué leur cadre d'expérience et de formation dans un passé qui est un passé extrêmement récent. On ne parle pas là de choses très anciennes, on parle d'un passé très récent. Autrement dit, la question qui se pose, que je vais essayer de poser, est la suivante. Que reste-t-il dans le contexte nouveau de l'occupation, des valeurs, des réseaux et des pratiques militantes antifascistes ? Et je voudrais essayer d'y répondre en suivant deux exemples qui sont à la fois distincts, mais qui sont en même temps, assez, à mon avis, assez complémentaires et même connectés. Premier exemple, celui des pionniers du Musée de l'Homme à Paris, sur lequel je passerai très rapidement, et puis pour en venir ensuite et pour m'attarder davantage sur l'exemple de la résistance toulousaine. Alors, à l'origine du refus, on le sait, il y a d'abord, et ça apparaît dans beaucoup de textes de résistants, il y a d'abord un rejet viscéral de la défaite et de l'occupation. Ce rejet, ce refus, il est individuel, il est solitaire, il s'opère en conscience d'abord, mais pour que la résistance émerge des limbes, la décision individuelle, l'engagement individuel ne suffit pas. Il faut en effet sortir de l'isolement et il faut qu'un collectif s'ébauche. Or, les premiers noyaux qui se constituent s'appuient le plus souvent, mais pas toujours, et ça a été montré ce matin, notamment sur la réactivation de sociabilités anciennes, sociabilités qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être amicales, qui peuvent être militantes et qui sont parfois, et même assez souvent, les trois à la fois. Fabrice, ce matin, a parlé notamment des réseaux démocrates chrétiens de l'avant-guerre, en évoquant le cas d'Edmond Michelet à Brive ou de François de Menton en Savoie. On observe un phénomène à peu près similaire du côté du Musée de l'Homme à Paris dès la fin de l'été 1940 avec la naissance d'une nébuleuse qui est une des premières actives en zone occupée et qui regroupe plusieurs noyaux. Au centre névralgique de cette nébuleuse, le noyau dit du Musée de l'Homme qui rassemble en fait au départ une poignée de scientifiques qui travaillent justement au Palais de Chaillot et qui en plus de ça sont non seulement des collègues mais sont aussi des gens qui sont des amis. Or, au sein de ce noyau initial, la filiation antifasciste est tout à fait déterminante. D'abord, en raison et à travers la personnalité du fondateur et du directeur du musée, le docteur Paul Rivet, intime de Léon Blum, socialiste. Il est en effet, comme vous le savez, un des trois cofondateurs du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, le CVIA, créé en mars 1934. Il est ensuite une personnalité évidemment très influente hein, du Front populaire. Alors, Paul Rivet est un cas complexe parce qu'il n'est pas un membre actif de l'organisation clandestine, mais il connaît parfaitement son existence et il facilite son implantation dans les murs puisqu'il lui procure, on va en venir dans un instant, des moyens matériels. Mais il n'est pas un membre actif parce qu'il va quitter en fait Paris pour la Colombie très tôt. Néanmoins, les trois figures majeures du groupe, les trois inventeurs de la désobéissance au Musée de l'Homme, que sont d'une part Yvonne Audon, la bibliothécaire de l'institution, Anatole Levitsky, anthropologue, et puis évidemment le plus connu des trois, Boris Vildé, linguiste. Ces trois figures, Audon, Levitsky et Vildé, ont baigné dans le climat des mobilisations antifascistes de l'avant-guerre, y ont adhéré très largement au sein d'une institution qui apparaît à l'époque comme une institution très progressiste. Autour d'eux s'agrègent des intellectuels au passé militant nettement plus marqué. Et là, je dois dire un mot d'Agnès Imbert, de Jean Cassou, ou encore de Claude Aveline. Agnès Imbert, attachée au Musée des arts et traditions populaires, qui est le musée qui jouxte le Musée de l'Homme au Palais de Chaillot. Jean Cassou, critique d'art, écrivain, conservateur au Musée d'art moderne de Paris. Et puis Claude Aveline, donc, écrivain lui aussi, auquel il faudrait ajouter Marcel Abraham, ancien chef de cabinet de Jean Zay, ou encore Simone Martin-Chauffier, qui travaille au Centre d'études de politique étrangère. Chez ces personnalités, leurs réactions immédiates et convergentes en 1940 s'inscrivent dans la continuité de leurs engagements antérieurs. Ils se connaissent de longue date, ils ont manifesté ensemble contre les ligues d'extrême droite, ils ont adhéré au comité de vigilance des intellectuels antifascistes, au comité de soutien, aux divers comités de soutien à l'Espagne républicaine, ils ont participé au même rassemblement sous le Front populaire et ils ont en plus écrit dans les mêmes journaux et revues, des revues et journaux comme Europe, Commune, Regard ou encore l'hebdomadaire Vendredi. On a ici affaire à de véritables militants, et lorsqu'on lit par exemple le livre d'Agnès Imbert qu'elle publie à son retour de déportation qui s'intitule Notre guerre, qu'elle publie dès 1946, ou lorsqu'on lit évidemment le récit que fait Jean Cassou, alors on a beaucoup cité La mémoire courte de 1953, mais il a aussi écrit une autobiographie qui s'intitule Une vie pour la liberté, on voit très bien hein, ces phénomènes de filiation et cet héritage qui est cultivé tout au long de sa vie et qui prend racine en très grande part, pour une très large part, dans un engagement antifasciste. Bref, tout ça pour dire que dans ce groupe, le ciment politique partagé et récent de l'antifascisme est d'une telle densité qu'il résiste en fait au cataclysme de 1940. Ce groupe, qui se baptise lui-même les Français libres de France, joue un rôle essentiel dans le développement de la nébuleuse du Musée de l'Homme, puisque c'est lui, par exemple, qui prend en charge notamment la rédaction, l'essentiel de la rédaction et de la publication du périodique Résistance, dont Cécile a parlé il y a un instant, périodique Résistance, dont le premier numéro, donc qui est un des premiers périodiques clandestins à apparaître en zone occupée, dont le premier numéro date du 15 décembre 1940, journal qui a été tiré sur la Ronéo, l'ancienne Ronéo utilisée par le comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui était entreposé au Musée de l'Homme et que Paul Rivet met à disposition du groupe. Ce groupe joue un rôle tout à fait clé dans ce moment-là et dans cette première activité de propagande. C'est ce groupe encore qui va permettre à Boris Vildé de rencontrer au tout début de l'année 41, les pionniers de la résistance à Toulouse, puisque Vildé fait une sorte de tour de France qui l'emmène en zone sud à la fin de l'année 40 et au début de l'année 41. Il passe par Toulouse et à Toulouse, il va rencontrer un certain nombre de résistants via Georges Friedman, le sociologue, ami intime d'Agnès Imbert et de Jean Cassou, qui présente Vildé aux dissidents toulousains. Alors Toulouse, justement, comment la résistance prend-elle corps ici, dans une région très singulière, hein, très particulière, puisque Toulouse, comme vous le savez, est non seulement proche de l'Espagne, mais c'est une région qui est une ville et une région qui est marquée à gauche, et qui possède en plus une tradition d'accueil d'immigration économique depuis le 19e siècle, avec en particulier beaucoup d'immigrés italiens, et puis une tradition d'accueil avec l'arrivée d'exilés politiques, d'abord italiens, fuyant le régime mussolinien dès 1922, puis évidemment tradition d'accueil renouvelée, amplifiée avec l'arrivée massive des républicains espagnols après la retirada de 1939. Beaucoup de ces réfugiés espagnols sont internés dans les camps de la région, Recebedou, le camp de Noé et du Vernet d'Ariège. Alors si on s'intéresse au début de la résistance dans la zone, dans la Ville Rose, on est frappé par le rôle joué, à côté des Toulousains d'origine, par des personnalités étrangères qui ont souvent en partage une expérience antifasciste. Évidemment, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est celui de Silvio Trentin, professeur de droit à l'université de Padoue, député socialiste de Vénétie en 1919, farouche opposant à Mussolini, qui est contraint à l'exil en France en 1926. Et en 1934, il ouvre à Toulouse, rue du Languedoc, une librairie qui devient très rapidement non seulement un foyer de la vie intellectuelle locale, mais aussi un haut lieu de l'antifascisme militant pendant la guerre d'Espagne. Et d'ailleurs, Trentin lui-même se rend à plusieurs reprises de l'autre côté des Pyrénées. Il organise dans sa librairie des réunions de soutien à l'Espagne républicaine, et c'est un lieu clé de l'antifranquisme en France. Or, c'est dans cette même librairie de la rue du Languedoc que va se réunir au printemps 41 un des tout premiers cercles de résistants toulousains qui prendra après-guerre le nom de Pierre Berthaud, de Réseau Berthaud. Pierre Berthaud, Réseau Berthaud et Pierre Berthaud, ancien membre du cabinet de Jean Zay, professeur d'allemand à l'université de Toulouse. Aux côtés de Berthaud, aux côtés de Trentin, on retrouve donc Jean Cassou, hein, dont on a déjà parlé, transfuge du Musée de l'Homme, replié donc à Toulouse après les arrestations qui ont décimé le groupe du Musée de l'Homme à la fin de l'hiver 40 et au début de l'année 41. Et puis évidemment le sociologue Georges Friedman, que j'ai déjà évoqué. Un autre Italien, ami de Trentin et là aussi militant très expérimenté, Francesco Fausto Nitti, participe à ce même groupe. Alors, militant expérimenté, oui, c'est le moins qu'on puisse dire de lui, puisqu'il a été déporté aux îles Lipari en 1926, dont il s'est évadé avec Carlo Rosselli en 1929, une évasion assez rocambolesque. Il se réfugie lui aussi en France, et il cofonde en France, avec les frères Rosselli, donc Carlo et son frère Nello, le mouvement antifasciste italien Giustizia e Libertà, avant de partir combattre en Espagne. Donc, vous voyez, là, on a vraiment un cas d'école. Alors, ce premier cercle militant toulousain, il va être en partie démantelé, hein, comme le sont beaucoup de ses premières initiatives, que ce soit en zone occupée ou en zone sud. Il va être démantelé très tôt par la police. Hein, il y a tout cet apprentissage de la vie clandestine, et qui est un apprentissage qui où le danger et où la répression sont évidemment des données absolument centrales. Il est en partie démantelé en novembre 41. Berthaud, Nitti, Cassou, par exemple, sont arrêtés, sont condamnés. Mais Trentin n'est pas arrêté. Et on va le retrouver dans un instant. Alors, sans mauvais jeu de mots, on retrouve ce même fil rouge, pour reprendre le titre du livre de Marie-Claire Lavabre, ce même fil rouge de l'antifascisme militant s'agissant d'autres pionniers de la résistance toulousaine. Et c'est le cas du jeune philosophe Jean-Pierre Vernant, jeune parce que 26 ans en 1940, et sur cette photo prise au lycée de garçons de Toulouse, devenu depuis le lycée Pierre de Fermat, en 41-42, on peine à le distinguer de ses élèves. Il est ici, hein, il est là. Jean-Pierre Vernant, en 1940, arrive au lycée de garçons sur le poste qui a été laissé vacant par Georges Canguilhem. Et il ne connaît personne à Toulouse, il n'est pas du tout toulousain, il n'a aucune attache dans cette ville. Et c'est pourquoi il décide de faire venir, dès l'automne 40, à Toulouse, il reprend contact avec d'anciens camarades à lui, et il fait venir à Toulouse, à l'automne 40, de jeunes intellectuels qui sont souvent des communistes comme lui, hein, des militants communistes, avec qui il a milité, c'est-à-dire avec qui il a très concrètement combattu dans les rues du quartier latin contre l'extrême droite, hein, ferraillé contre l'extrême droite, dans tous les sens du terme, hein, y compris physiquement. Il les appelle mes copains, il dit ses copains. Alors ses copains, c'est Victor Leduc, son vrai nom c'est Serge Nechtein, Jean Miaille, Pierre Doissant qui est le régional de l'étape, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a un Toulousain d'origine, qui est le seul, qui sont bientôt rejoints par Mario Lévy, lui aussi antifasciste italien exilé, lui aussi membre de Justice et Liberté, Justicia et Libertà. Alors le cas du groupe Vernant est quand même assez intéressant. Ce sont des militants communistes, vraiment. Mais à l'automne 1940, ils sont coupés de la direction du parti et ils s'engagent immédiatement, c'est-à-dire qu'ils sont pas tenus, ils se sentent pas tenus par la ligne officielle du parti. Ils s'engagent tout de suite. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils privilégient leur fidélité à la lutte antifasciste, à la ligne officielle. Ils arbitrent, hein, ils font preuve là d'une marge de manœuvre et d'une capacité d'invention, d'inventivité qui est quand même assez, assez évidente. Alors ces néo-toulousains, malgré leur jeunesse, sont là aussi des militants qui sont déjà très aguerris. Et ils vont ensuite s'insérer dans un tissu local dissident, dont sans doute Elérica Leroy parlera tout à l'heure, en évoquant la figure évidemment de François Verdier, mais on pense aussi à quelqu'un comme Raymond Nave. Alors ils vont s'intégrer, ils vont évoluer d'abord au sein de Libération Sud, puis au sein des murs, puis au sein de l'armée secrète de la région, de leur région R4. Alors tout ce qui précède permet évidemment de souligner, hein, le poids de l'antifascisme dans les choix de 1940, même si, je le répète, il n'y a pas d'automaticité et il y a évidemment des contre-exemples, c'est-à-dire des gens qui ont été actifs dans l'antifascisme et qu'on ne va pas retrouver dans la résistance, bien sûr. Néanmoins, cet antifascisme, il a constitué un cadre d'éducation, un cadre de socialisation politique qui a marqué des militants, qui étaient des militants pour la plupart très jeunes. C'est-à-dire que évoquer l'antifascisme comme une sorte de propédeutique à l'engagement résistant, ça n'est pas convoquer une expérience lointaine, hein. C'est convoquer une expérience, donc ni lointaine, ni floue, ni vague. C'est convoquer au contraire une expérience qui est extraordinairement fraîche, extraordinairement vivace, dans le vécu et parfois dans la chair de ces militants, de ces acteurs. Je veux dire par là que l'antifascisme n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience concrète, c'est une expérience quotidienne, c'est une expérience physique. Alors apparaissent évidemment des éléments de continuité, on l'a dit, basés sur la succession, hein, d'engagements intensément vécus, la lutte contre les chemises noires en Italie, ou la lutte contre les ligues d'extrême droite au quartier latin, les mobilisations unitaires en faveur du Front populaire, l'aide à l'Espagne républicaine à travers l'engagement brigadiste et à travers l'accueil des réfugiés. Et ici, à Toulouse, cette dimension, elle est essentielle. Elérica Leroy, évidemment, on parlera à propos de François Verdier, mais on pense évidemment à Jules Saliège, on pense à Bruno de Solages. Autant d'expériences, bref, préalables, qui vont être réinvesties pendant l'occupation. Donc l'antifascisme est bien une matrice politique qui est toujours opératoire, une grille d'analyse globale qui permet de penser le rapport de force. Dans les représentations des acteurs, et tu parlais tout à l'heure, Cécile, des représentations au pluriel, c'est-à-dire à la fois du passé, du présent et aussi de l'avenir. Les situations changent, elles évoluent, mais l'ennemi demeure et c'est au fond toujours la même lutte qui se joue et qui se rejoue. Alors je voudrais terminer par une dernière idée. Non seulement cet héritage antifasciste, il est prégnant, il est agissant, mais je crois qu'il est durable. Il est présent dès l'origine comme une des sources de l'engagement, parmi d'autres. Mais en fait, il court tout au long de la période. Et le cas de la résistance toulousaine, de ce point de vue-là, est très éclairant. Parce qu'on retrouve Silvio Trentin, plus tard à l'été 42, à la naissance du mouvement Libéré et Fédéré, qui publie un périodique du même nom, premier numéro, le 14 juillet 1942. Le voici. Et ce mouvement, en quelque sorte Libéré et Fédéré, renoue avec la ligne antifasciste qui était celle de Justice et Liberté, en défendant encore une fois le principe d'un large front commun face à l'ennemi, quelles que soient les appartenances politiques antérieures. Et Libéré et Fédéré est extrêmement œcuménique et il rassemble et il veut rassembler, hein, il cherche à rassembler, et il le dit, des socialistes, des communistes, des syndicalistes et des chrétiens, au fond à l'image de la résistance tout entière, hein, parvenue à maturité. Et c'est cela sans doute une des singularités quand même de la résistance et de son histoire, son exceptionnalité, hein. C'est un moment quand même très rare dans l'histoire d'avoir des organisations qui cherchent, voilà, à rassembler et qui le font, des gens aussi, aussi divers. Autre exemple, Thomas Fontaine en a parlé, au sein des organisations communistes toulousaines. L'expérience antifasciste, là encore, apparaît comme une colonne vertébrale dont on ne peut pas se débarrasser. Le cas de la 35e brigade FTP-MOI, fer de lance de l'action directe à Toulouse, est de ce point de vue intéressant. Elle est dirigée par Thomas Lady, par Marcel Langer, Mendel, en fait, Langer, de son vrai nom, qui est un ouvrier juif polonais, installé à Toulouse depuis 1933, mais qui a été surtout un combattant dans les brigades internationales et qui est marié, en plus de ça, à une Espagnole. Et les deux autres membres du trio directeur, du trio de direction de la brigade, Jacob Insel et Jan Gerhardt, sont eux aussi d'anciens brigadistes. Alors, plus largement, la place de la lutte armée et le rôle central joué par les maquis dans la région R4 renvoient au poids du monde rural, mais aussi toujours à cet héritage antifasciste. En Haute-Garonne et dans les départements limitrophes, de très nombreux maquis sont composés de guerrieros espagnols, constituant brigades, souvent liées au Parti communiste, dès la fin de l'année 41. Et à la veille de la libération de la région, en août 44, ils sont 3 000 guerrieros espagnols. J'ajoute pour terminer que dans l'état-major de l'armée secrète, puis dans l'état-major des FFI de la région R4, on va retrouver un certain nombre de gens qu'on a déjà vus, en particulier Vernant Berthier, colonel FFI à la Libération, ici avec son maître et adjoint Ignace Meyerson. Pourquoi je dis maître et adjoint? Et là, je rejoins ce que disait Laurent. Dans cette contre-société clandestine, il arrive aussi que les hiérarchies de l'ancien temps soient bousculées, soient renversées. Ignace Meyerson est incontestablement le maître intellectuel, un des deux maîtres intellectuels et spirituels de Jean-Pierre Vernant. Mais dans la résistance, la hiérarchie est retournée et inversée. Je vous remercie.
Même audio, une mémoire sonore.
On va directement passer à la dernière communication de cette matinée de Jean-Marie Guillon, qui a été professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, grand spécialiste de l'histoire du Var pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au cours du XXe siècle. Et il va nous parler aujourd'hui des rapports entre résistance et république. Jean-Marie.
Bien, alors sans attendre, je commence. D'abord, en renvoyant à un numéro de l'excellente revue Historien et Géographe, il y avait un numéro sur les femmes dans la résistance que Fabrice a coordonné récemment. Et en 2015, avec Bruno Leroux, nous avions coordonné un numéro sur la résistance et qui a abordé un certain nombre de thèmes dont on a parlé, dont on va parler et auxquels je renvoie. Alors, résistance et république, en quelque sorte, le temps passé fait qu'on a l'impression que ça va de soi, que la liaison a été automatique. Or, les choses ne sont évidemment pas si simples, vous vous en doutez. Donc, dans un premier temps, je survolerai la question de cette remise en question de la République ou de certaines formes de la République. Dans un deuxième temps, j'aborderai toujours en survol la réhabilitation de l'idée républicaine. Dans un troisième temps, ça sera de quelle République il s'agit, tout ça évidemment très très rapidement. Alors, la résistance, quelle réaction elle part ? J'appartiens à une génération qui a toujours été gênée, qui a longtemps été gênée, toujours pas, mais longtemps été gênée, par l'idée de patrie et le patriotisme, pour des tas de raisons, d'usages qui nous gênaient probablement, et nous avons eu tendance, sans doute, à sous-estimer très largement le fondement patriotique premier de la résistance, en mettant en avant, par exemple, l'antifascisme avant le patriotisme, ou le républicanisme contre Vichy. Or, la résistance est d'abord une réaction patriotique. Pour citer un Toulousain, comme il se doit, je cite André Horioux. André Horioux, dans cet ouvrage extrêmement intéressant, très significatif de toute une réflexion qui s'appelle « Vers une doctrine de la résistance, le socialisme humaniste », écrit ceci, « La résistance est née d'un réflexe patriotique. La honte, le caractère moral est absolument essentiel. La honte de voir le sol français foulé aux pieds par l'envahisseur. Mais très vite, ce réflexe est transformé en une volonté consciente. Mais le point de départ, c'est la réaction patriotique. D'ailleurs, il s'agit de regarder qui sont les hommes et les femmes qui sont à l'origine de ces premiers noyaux de résistance. Si vous vous tournez vers la zone occupée, c'est encore plus net. Une bonne partie d'entre eux ne viennent pas du tout de la tradition républicaine. Une bonne partie d'entre eux viennent de l'extrême droite nationaliste. C'est d'autant plus facile en zone occupée qu'il n'y a pas l'écran de Vichy. Alors qu'en zone libre, en zone qui est libre pour les Parisiens, c'est la raison pour laquelle ils vont toujours considérer plus longtemps que dans le Sud que le maréchal Pétain représente quelque chose. Ça, c'est un autre problème. En zone sud, évidemment, il y a Vichy. Et par conséquent, la question de la République se pose davantage. Il n'empêche que le point de départ, c'est bien un réflexe patriotique. Et même si on est républicain, on s'interroge. C'est pas parce que Vichy appelle au mea culpa que les républicains eux-mêmes ne s'interrogent pas et ne font pas leur autocritique. Lorsque vous lisez Marc Bloch, L'étrange défaite, examen de conscience d'un Français. Et il ne remet pas en cause seulement les militaires. Il le fait, bien entendu. Il s'interroge aussi sur le monde politique, sur la société elle-même, sur ses propres responsabilités. Il met en cause le pacifisme, le sermon paresseux des instituteurs qui travaillaient, je cite, inconsciemment à faire des lâches. Il disait que le capitalisme français était dur à ses serviteurs, et ils n'avaient certes pas tort, mais ils oubliaient que la victoire des régimes autoritaires ne pouvait manquer d'aboutir à l'asservissement presque total de nos ouvriers. Il s'interroge sur la littérature du renoncement, qui stigmatise le progrès, l'américanisation, qui vante par contraste la France rurale, paisible et en quelque sorte, la civilisation des petites villes. Le même examen critique, vous le retrouvez dans un texte absolument fondamental. Moi, je le proposerai volontiers un livre de chevet à tous les hommes politiques, qui est À l'échelle humaine de Léon Blum, où Léon Blum, dans sa prison, s'interroge sur les responsabilités de la société politique, sur ses propres responsabilités. Il parle de faillite du socialisme. À cause du pacifisme, à la croyance au pacifisme des peuples, au fait que, dit-il, nous devions donner l'exemple de la fierté, du désintéressement absolu, de la grandeur d'âme, qui sont l'apanage des forces jeunes. Or, nous nous sommes compromis, et notamment compromis dans la démagogie. Il dit qu'il faut interdire le langage de la haine, donner un exemple de la noblesse, de la sincérité, de la loyauté, du désintéressement dans la lutte politique. Et tout ça, c'est bien une remise en question des pratiques politiques de la République parlementaire, qu'il a évidemment, dont il a été un acteur de premier plan. Par conséquent, vous le voyez bien, la question de la République se pose, soit qu'elle soit indifférente à ceux qui font pas partie de cette tradition, soit que ceux qui en font partie s'interrogent. Du coup, un certain nombre de ces républicains vont se demander que faire vis-à-vis du maréchal Pétain. Car Pétain, il n'a pas tout à fait l'image très négative qu'il prend au fil du temps. Elle est beaucoup plus négative aujourd'hui, évidemment, qu'il y a encore 40 ou 50 ans, pour ne pas parler des années Vichy. Que faire ? Est-ce que les appels à l'unité nationale de Pétain sont insincères ? Ne faut-il pas y répondre ? Des députés qui ont voté non le 10 juillet, y compris ces députés, certains d'entre eux s'interrogent sur ce qu'on fait. Et on les voit adhérer d'emblée, par exemple, à la Légion des Français des combattants, parce qu'ils sont anciens combattants, qui est évidemment l'outil principal de propagande et d'implantation du régime de Vichy. Donc il y a hésitation. Alors la rupture, elle va venir d'où ? La rupture définitive à Vichy, ben, c'est la collaboration. Alors là, il est évident que c'est un régime général, et encore plus, évidemment, chez ces républicains. C'est la Révolution nationale qui prend tournure à partir de l'automne 1940 avec le remodelage qui est commencé. Et c'est dans notre midi à tradition républicaine, avec ce paradoxe que Vichy est implanté, de fait, dans les régions qui ont le moins contribué à porter Pétain au pouvoir. Mais Vichy, c'est la revanche des Blancs. Dans nos midis, le grand clivage politique, c'est le clivage rouge-blanc, républicain et ex-royaliste, ou toujours royaliste. Or, Vichy, c'est la revanche des Blancs. Et ces Blancs de villages, de petites communes, de départements, ils sont beaucoup plus revanchants encore que ceux qui se trouvent, du moins en 40, à la tête du gouvernement du dit État français. Et donc ça, c'est ce qui va évidemment provoquer le basculement de toute cette frange républicaine, souvent socialiste, éventuellement radicale, dans contribuer à la résistance. Mais vous voyez qu'il y a fallu du temps et que rien n'a été tout à fait simple. Dans cette organisation de ce qui va devenir petit à petit la contre-société clandestine à partir des noyaux dont nous avons parlé toute la matinée, la question s'est très vite posée de savoir ce que on devait faire une fois que la patrie serait libérée. Peut-on libérer la patrie, ce qui est prioritaire? Et c'est la raison pour laquelle moi aussi je suis très critique avec l'expression vichisto-résistant. Car quelqu'un comme Freinet, au départ, Henri Freinet, n'est pas hostile à la Révolution nationale, comme d'ailleurs les organisateurs de liberté, comme le général Cochet. Mais ce qui les différencie fondamentalement de Vichy, c'est que pour eux, la libération nationale, c'est le nom du mouvement de Freinet, est première, et pas la Révolution nationale. Mais même ces gens, dans cette lutte, dans laquelle ils rencontrent des francs-maçons, des socialistes, enfin, des juifs, pas forcément le public qu'ils espéraient regrouper. Dans cette lutte, très vite se pose pour eux la question de savoir comment garantir la liberté de la nation sans garantir la liberté des individus, sans garantir les droits. Et la garantie des droits et la garantie des libertés, ça s'appelle la démocratie. Et la démocratie en France, ça s'appelle la République. Et donc on assiste à ce que j'ai appelé, ça peut se discuter bien sûr, une républicanisation de la résistance, c'est-à-dire en fait une réhabilitation de l'idée républicaine dans la résistance. Et l'année 1942 est fondamentale. Elle est fondamentale parce que ce qui est très intéressant, c'est que Laval, remis au pouvoir en avril 1942 par les Allemands, tente de rejouer la carte républicaine. c'est quelque chose qui est trop peu souligné, probablement. Il essaye, lui qui se fiche éperdument de la Révolution nationale et des discours pétainistes, il essaye de récupérer des gens, hauts fonctionnaires et élus, que le régime de Vichy revanchard a exclu. Jean Moulin, par exemple. Bon, évidemment, c'est trop tard, car le retour de Laval au pouvoir, c'est une rupture fondamentale, probablement aussi fondamentale dans l'opinion que novembre 1942, l'occupation, enfin, actuellement, parce que ça ébranle jusqu'au fondement du pétainisme. On le voit, d'ailleurs, par un certain nombre de réactions. Donc Laval essaie lui-même de rejouer la carte de la République en 1942. Mais au mois d'avril 1942, il y a un certain Christian Pinault qui revient de Londres avec une déclaration du général de Gaulle au mouvement de résistance intérieure qui, en quelque sorte, les assure du parfait républicanisme de la France libre. Car dans la France libre, c'était la même chose. Au départ, les gens de l'entourage du général de Gaulle ne sont pas tous des René Cassin. Un certain nombre d'entre eux, le clerc de Hautecloque, par exemple, ne sont pas des républicains convaincus, c'est la moins que l'on puisse dire. Et la devise de la France libre, c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est honneur et patrie. Par conséquent, ce mouvement de républicanisation, il a lieu aussi de l'autre côté, à Londres. Et les deux se rejoignent en avril 1942 dans ce texte qui est apporté par Pinault à la résistance intérieure. Dans le pays même, ce mouvement de retour à la République et à la patrie, qui sont indissociables, on peut le vérifier chez les antifascistes de Libérés et Fédérés, parce que vous avez remarqué la date de publication du numéro 1 de Libérés. C'est le 14 juillet 1942. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Évidemment non. Le 14 juillet 1942, c'est une date fondamentale dans l'histoire des liaisons entre résistance et république et résistance et population. Parce que ce jour-là, en zone sud, parce que c'est évidemment c'est plus facile, ont lieu des manifestations tout à fait spectaculaires par leur nombre et certaines à Lyon ou à Marseille par leur ampleur. Ce sont des milliers, plus de dizaines de milliers de personnes qui manifestent ce jour-là. Et on le voit, y compris dans de petits villages. J'espère pouvoir publier le journal d'un secrétaire de mairie d'un petit village du Vaucluse qui, dans son journal, écrit 14 juillet 1942 « Fête de la République, fête de la résistance aux méthodes actuelles, fête de l'espérance. » L'espérance, la projection sur l'avenir. La radio anglaise a demandé qu'on pavoise partout et le général bien français, de Gaulle, a prescrit des cortèges dans certaines artères des villes à partir de 18h30. À Saint-Saturnin, c'est le nom de son village, on n'avait jamais tant vu de maisons pavoisées. Et ça, c'est extraordinaire, parce que les témoignages sur les villages, on en a très peu, très très peu. Hein, on voit bien qu'il y a un ébranlement jusque dans ces où la résistance n'est pas organisée. Le groupe de résistance, il n'existe pas en 14 juillet 1942 dans le village. On voit bien qu'il y a là un sursaut patriotique et républicain tout à fait significatif. Le même secrétaire de mairie, le même secrétaire de mairie, le 8 septembre, dans son journal, écrit « Journée à marquer d'une pierre noire ». Sans aucune instruction officielle et sans mise en demeure aucune, notre présidente de la délégation spéciale, la mairie républicaine a été remplacée par une délégation spéciale, poussée et conseillée en fait par un membre de sa délégation, a fait enlever de la salle de la mairie, la salle des mariages, le buste de la République. Ce geste, peu important matériellement, est énorme au point de vue symbolique. Il démontre le sectarisme de nos dirigeants provisoire, de nos dirigeants provisoires, 8 septembre 1942. Et bon, l'autre photo que je voulais vous montrer en premier, c'est le buste d'une Marianne qui m'est très chère, parce qu'en 1943, au mois d'avril 1943, dans ce village du Haut-Var, le chef de la milice vient déceler le buste de Marianne qui se trouve sur la fontaine. C'est le jour de Pâques. C'est le jour de Pâques. Les gens jouent aux boules. Il n'y a pas de groupe de résistance organisé dans le village. Quelqu'un crie « On vole la Marianne !» Et les joueurs de boules arrêtent de jouer, encerclent la voiture du milicien, qui est une voiture en plus de l'armée d'occupation italienne, ce qui n'arrange rien, et l'empêchent d'emporter le buste décelé. Un gars qui n'est pas encarté dans la résistance s'empare du buste, on le planque et il va ressurgir à la libération. Et aujourd'hui, on célèbre évidemment la victoire du village pour conserver sa Marianne. Il y a là... c'est la République au village. C'est la République au village de Maurice Agulon, cher Amoré. C'est la tradition républicaine que l'on voit dans des populations qui ne sont pas organisées, bien entendu, dans la résistance et dans les noyaux de résistance, donc ils vont l'être de toute façon, et de toute façon un peu plus tard. Il y a bien une réhabilitation à tout niveau, par conséquent, de la République. Alors, à partir de ce moment-là, quelle République? Et là, je ne rentrerai certainement pas dans les détails, mais les réflexions des mouvements de résistance sur ce que doit être la République sont d'une richesse extraordinaire, comparée d'ailleurs à certaines réflexions d'aujourd'hui, entre nous, ça dit. Et on aurait, évidemment, on devrait s'y reporter. Un exemple parmi d'autres, mais puisque nous sommes à Toulouse, on ne peut pas faire autrement. Vincent Auriol. Vincent Auriol, ministre des Finances du Front Populaire, socialiste, vous le savez, grande personnalité politique du Sud-Ouest. Il publie tout un ouvrage sur ses réflexions de pendant la guerre, hier, demain, où il envisage ce que doit être, en quelque sorte, la République idéale pour lui. Et à peu près tout y passe dans les institutions. Il est un adepte, par exemple, du régionalisme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On s'interroge sur est-ce que la République devra être à l'exemple des États-Unis, Léon Blum, avoir un régime présidentiel, ou bien est-ce que rester en régime parlementaire? C'est plutôt la tradition républicaine classique. Mais deux chambres ou une chambre? Et puis le département, on le conserve ou on le remplace par la région? Et puis la commune, on ne la touche pas. Parce que la commune, c'est la cellule de base, c'est la République au village, je le disais. Enfin, au contraire, il faut lui donner plus de liberté. Je reviens à mon secrétaire de mairie. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est le libéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas un gros mot. C'est le libéralisme, c'est-à-dire la liberté des individus et la liberté des petites cellules qui composent la démocratie. Cette réflexion, je termine là-dessus, elle, si je vais à la suite, elle est prolongée, et je fais exprès d'attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a des travaux de recherche qui sont à mener, qui n'ont jamais été faits, sur les cahiers de doléances de la libération. Dans tous les départements de France, dans énormément de communes de France, la population, une partie de la population, celle qui se sentait concernée, mais il n'y a jamais eu autant de gens concernés qu'à la libération, a été amenée à réfléchir sur ce que devait être la France du futur, la patrie du futur, la République du futur. Et on a appelé ça, par référence à 89, les cahiers de doléances. Là, vous avez le plan pour les cahiers de doléances que j'ai retrouvé dans le Vaucluse. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, je n'ai pas fait une recherche étendue. Mais vous voyez que ce n'est pas normatif, ce n'est pas directif. On leur demande de réfléchir sur la France, le législatif. Et ça va jusque dans les villages. Et alors, on a des propositions. On a toutes sortes de propositions. Par exemple, l'Isle-sur-Sorgue, on réfléchit sur la France. Consultation législative rapide et refonte complète de la Constitution de 1975. Élection pour le peuple à tous les degrés, y compris la présidente de la République. Ce qui n'est pas souvent le cas. Mais c'est vous dire que la discussion est ouverte. Elle n'est pas formatée par... avec des différences considérables entre les villages. Responsabilité des élus, quels qu'ils soient. Empire colonial, ouais. Oui, bien sûr qu'il y est. Mais de même que la construction européenne, elle est à peu près partout. Comme à Carpentras, la région doit être une unité administrative et économique. l'Assemblée élue, etc. Bon, la nouvelle Constitution, vous voyez, je termine par... 30. Pertuis, nous sommes toujours dans le Vaucluse, conseil municipal élu pour 6 ans, révocable à tout instant par la moitié ou plus des votants de la commune. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons, dans ces cahiers de doléances, inexploités jusqu'à présent, une source historique fondamentale, une source de réflexion extraordinaire, des idées pour la République, les idées que le peuple résistant avait, des idées que nous devons garder en héritage. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.